Devenir art, rencontre régionale des arts visuels qui s'est déroulée le 12 septembre 2025 à Talmetour, un podcast proposé en 4 épisodes et réalisé par Mélissa Vikilus ainsi que Louise Wallet. Épisode 4, interview de Cécile Pitois, artiste qui travaille avec l'espace public, et enfin interview de Xavier Bertola, un artiste qui questionne la place de l'humour dans l'art.
Bonjour Cécile Pitois.
Bonjour.
Alors Cécile Pitois, vous en souvenez sûrement pas, mais je vous ai enregistré il y a un bon moment sur une œuvre que vous exposiez près de la fontaine Beaune-Semblançay. C'était un coussin en extérieur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette œuvre, c'était quoi ?
Alors cette œuvre, elle s'appelle La Fontaine des Amoureux. Et c'est la première œuvre dans l'espace public que j'ai réalisée. Donc, j'étais très contente et très fière. Et je l'aime toujours beaucoup, bien que j'ai fait depuis des œuvres monumentales, mais je l'ai vraiment à cœur parce qu'elle s'inscrit dans le paysage architectural de manière très en filigrane. Donc on peut passer à côté, ne pas la voir ou la voir. Là, on ne peut plus la voir vu que je l'ai enlevée puisqu'il y a une restauration de la fontaine Renaissance elle-même, mais un jour, elle reviendra.
Ah, donc, faut être un peu patient. Quel bon vent vous amène à ces rencontres, alors ?
Alors, en fait, je viens parce que ce que je trouve important dans le réseau Devenir Art, c'est le réseau, on va dire, amical. Et venir ici, c'est rencontrer des personnes qu'on connaît déjà, des personnes qu'on ne connaît pas, se faire rencontrer des personnes entre elles. Et ça, pour moi, c'est déjà, le pourquoi je viens et ce que je vais retenir, je pense. Après, bien sûr, le fait d'échanger sur des problématiques qu'on rencontre tous et toutes, c'est important. Plus dans les petits groupes qui vont venir cet après-midi, je pense, que dans des conférences comme il y a eu ce matin. Mais voilà.
Alors, ce matin, il était question, quand même, malheureusement, beaucoup de la précarité que vivent les artistes visuels, disons, les créateurs et créatrices dans le domaine des arts visuels. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Alors, moi, il y a deux choses que j'aimerais dire. C'est que le problème, par exemple, actuellement, moi, j'ai pas d'argent pour aller faire des courses pour manger, alors que des institutions différentes me doivent, j'ai aligné, 11 000 euros. Quoi. Donc, voilà. Donc, on est payé avec des retards incroyables. Et là, il manque vraiment une institution ministérielle avec des juristes pour pouvoir avoir une interface entre les artistes et les institutions. Mais aussi, les institutions pourraient se servir de ces juristes lorsque ils payent des artistes et que les artistes ne font pas leur travail. Ça va dans les deux sens, quoi. Et pour moi, c'est un grand problème parce qu'on est sans arrêt en train de courir après notre argent et ça, c'est fatigant. La deuxième, c'est qu'on entend des chiffres et il y a quand même beaucoup d'argent quand même donné au milieu de l'art, mais il y a de plus en plus pour moi d'intermédiaires. Alors, c'est bien qu'il y ait des intermédiaires, mais moi, j'ai déjà travaillé sans intermédiaires. Maintenant, on est obligé de travailler avec les intermédiaires. Et que eux, souvent, ils ont des structures où ils sont payés à chaque fin de mois, alors que nous, on devient encore plus le dernier maillon de la chaîne. Mais voilà, c'est une évolution du monde de l'art, quoi, avec tous les nouveaux métiers qui tournent autour et qui, font de l'argent par rapport à notre travail. Mais nous, du coup, ça nous repousse encore plus sur le dernier maillon. Au niveau des rémunérations, quoi.
Et alors,
solution, c'est d'avoir beaucoup plus d'argent et qu'il y en ait pour tout le monde, ça c'est sûr.
Mais c'est sûr, dans un monde idéal, ce serait parfait. Et alors, par curiosité, si vous voulez répondre à cette question, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile de se faire payer ? Qu'est-ce qui bloque dans les structures pour que les sous arrivent jusqu'à votre escarcelle ?
Alors, par exemple, là, j'ai le cas, j'ai J'étais finaliste pour 1% en Guyane. Je crois que c'est 240 000 euros. Pour l'instant, ils ne payent personne. Parce que 240 000 euros mis en banque pendant 6 mois, bah, ça fait beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est souvent aussi ça. Et puis des fois, quand c'est des plus petites sommes... Alors là, c'est là où on me doit 7 000 euros, là, sur les 240. Mais sur des plus petites sommes, des fois, c'est que les gens ne réalisent pas que nous, on n'a pas de salaire à la fin du mois. Et même que juste une rémunération de 300 euros, bah, nous, on n'a pas envie d'attendre 6 mois pour l'avoir. Quoi. Alors après, moi, je n'ai pas fait ce métier-là pour gagner de l'argent, parce que je pense que je suis assez intelligente pour choisir d'autres métiers que j'aurais pu faire ou que je pourrais faire encore pour en gagner beaucoup plus. Après, voilà, on a un métier complètement incroyable, de rencontres humaines, de rencontres avec des paysages, avec un tas de problématiques. Et voilà, pour rien au monde, j'échangerai de métier. Voilà.
Un métier de cœur, au final.
Oui, puis c'est un peu comme si on ne peut pas faire autre chose, quoi. Moi, je pense que j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais je ne sais pas. La vie, pour moi, n'aurait pas beaucoup de sens, quoi.
Et alors sur la valeur qui est donnée aux œuvres d'art, parce que des fois, bon, quand on n'est pas du milieu, on peut suivre quand même certaines ventes aux enchères, parce que comme ça atteint des fois des sommes délirantes, les médias sont gourmands de ces ventes aux enchères-là. Donc en tant qu'artiste, là je m'adresse à vous et puis à Louise aussi, qui est là, qui est étudiante à Talm, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur la rémunération des œuvres d'art? Est-ce que c'est à partir d'un nombre de zéros, ça semble hors réalité? Comment est-ce que vous chiffreriez votre travail, disons en tout cas la partie finie, celle que le public voit, c'est-à-dire l'œuvre tangible? Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ça?
Alors au-delà d'une rémunération, je pense que c'est plutôt une estimation. Et c'est vrai que c'est toujours dur d'estimer le prix de ses propres œuvres. Et c'est pour ça qu'il y a des galeristes qui font ce travail ou d'autres personnes, parce qu'elles sont plus aptes à les mettre dans une cartographie hein, de valeur. Moi, j'ai choisi, il y a maintenant 25 ans, de m'extraire complètement de ce milieu. Hein, vu que j'avais une galerie à Paris, j'exposais plutôt dans des centres d'art. Et le fait d'avoir choisi de travailler dans l'espace public, c'était aussi un choix conscient de ne pas être dans cette chaîne qui est très, où l'argent intervient à plein de niveaux qui ne me plaisent pas forcément, et encore moins le public qui va acheter toutes ces œuvres. Ça ne veut pas dire que je crache dessus, mais ce n'était pas ce public que je voulais atteindre. Donc en créant des œuvres dans l'espace public, j'ai choisi aussi d'avoir un public qui est beaucoup plus populaire, c'est-à-dire ça peut être un enfant, une personne âgée, quelqu'un qui ne connaît rien à l'art contemporain, ou beaucoup. Et ça a été vraiment un choix conscient de ma part de quitter ce monde de l'art un peu financier, quoi, on va dire.
Eh bien, en entrant dans l'école, là, dans ce hall, sur la table, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une grille des tarifs en tant qu'artiste. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si toi, tu te réfères à ça ou pas du tout.
Alors moi, au lieu de me référer, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai faite avec Emmanuel Lauer il y a à peu près 3-4 ans maintenant. En tout cas, on était une petite équipe et au final, on a été toutes les deux à l'établir. Alors on a fait des choix, je pense que d'autres personnes ont repris des choses, et ça c'est bien, hein, parce que c'était important, on n'avait pas d'institution avec nous, et le choix qu'on avait fait, c'est de ne pas appliquer les mêmes tarifs aux mêmes structures. Donc on a fait structure moins de 30 000 euros par an, de 30 à 150 000, et au-dessus de 150 000, parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes tarifs à une petite association qu'à un grand centre d'art. Donc pour nous, c'était ça qui était important. Et puis après, on a mis un minimum, c'est à partir de temps, mais les gens peuvent donner plus. Alors après, on pourrait s'y prendre autrement et ça va évoluer, quoi. Mais c'est important parce que beaucoup de personnes nous ont remerciés en disant oh, « c'est bien maintenant, quand quelqu'un me demande une prestation, je vais sur la grille des rémunérations et du coup, ça, j'envoie la grille de rémunération et ça justifie le chiffre que je vais mettre sur ma facture. » Non, ça, je pense que ça a aidé tout le monde, mais Astre l'avait déjà fait. C'est un autre réseau. Et puis, nous, on a pas mal, on s'est beaucoup inspiré de grilles de rémunération au Canada. Ouais.
Et qu'est-ce que tu penses, toi, des artistes qui vendent leurs œuvres à prix libre, pardon?
Ah oui.
Ouais. Alors, je suis étonnée de savoir.
Ben, ça commence, donc on va arrêter. Mais bon, en tout cas, merci.
Et puis, la suite après la conférence, éventuellement.
Voilà.
On va rester sur cette question, l'art à prix libre. À plus tard, peut-être. Merci.
Bah, je suis pour, mais à plus tard.
On fera réglementer plus tard. Merci.
DIY, do it yourself. Avec des esthétiques de niche, on va dire, où on avait l'impression qu'il y avait besoin de se renouveler en fait, sur l'adresse au public, dans le sens où on est sur des esthétiques totalement en dessous des radars, invisibles, mais on croit qu'elles peuvent rencontrer un spectateur et des spectatrices via une expérience particulière.
La surprise est assez intense, et ce qui est intéressant, c'est d'aller de surprise en surprise et que les surprises soient de différentes natures.
Comment, sur des artistes qui sont absolument inconnus, inciter le public à vivre quelque chose avec nous?
La surprise, elle est assez évidente, dans le sens qu'on a goûté de la musique un peu partout, on entend partout, qui se fonde souvent sur un rythme, une forme de répétition, de boucle, des harmonies, des mélodies, et que là on a des propositions musicales qui parfois sont vraiment en dehors de tout ça.
On en est qu'au début, voilà.
Entre les deux, c'est la radio.
Eh bien, nous sommes en cette fin de journée des rencontres régionales et des arts visuels avec Devenir Art. Donc, fin de ce vendredi, ça a été une journée très très chargée et on retrouve Cécile pour finir ce qu'on avait commencé. Et c'était, il me semble, la question de que penses-tu des artistes qui vendent leurs tableaux ou leurs créations, etc., à prix libre ?
Alors, en fait, à prix libre, qu'est-ce que tu entends à prix libre ?
C'est-à-dire que si une personne est intéressée, elle met la somme qu'elle considère être normale pour l'artiste.
D'accord. Alors après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont donner 10 euros en se disant qu'ils ne vont pas du tout estimer le temps de travail plus les frais de production. Donc je pense que ça, ce n'est pas une très bonne idée. En revanche... moi, je pratique quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mais qui est très différent. C'est que quand j'habitais à Londres, une fois, il y a quelqu'un qui habitait la rue et qui était venu dans mon atelier, qui était tombé complètement amoureux d'une peinture que j'avais faite, qui n'était pas très grande. Il voulait absolument l'acheter, mais je ne savais pas quel prix, parce qu'il ne pouvait pas mettre le prix que j'aurais donné habituellement. Donc, je lui avais donné une fourchette et je lui avais dit « Tu choisis dans cette fourchette et tu me paieras en autant de fois que tu veux. » Donc voilà, moi c'est plutôt ça, j'ai ma fourchette et parfois je m'adapte, mais je m'adapte aussi parce que cette personne, il est venu je crois pendant un an me donner je sais pas combien d'euros chaque mois et il était content à chaque fois de revenir à l'atelier, mais je l'ai pratiqué pour des pièces beaucoup plus onéreuses. C'est-à-dire que voilà. Alors après, un prix libre, non, je pense que ça donne pas une bonne représentation du travail de l'artiste. Tu vois, je pense que l'artiste, même si c'est difficile de donner un prix, après, je pense que d'être flexible, c'est bien. Voilà. Et puis après, ça dépend. Hein. Tu sors des Beaux-Arts, oui. T'achètes quelque chose à 150 euros, t'es hyper content. T'as 40 ans de carrière, tu te dis, moins les taxes, moins ci, moins ça, je gagne rien. Et puis de toute manière, j'aurais dépensé plus pour le faire.
Ah, c'est ça. Mais c'était plus parce que des fois, demander de l'argent, c'est compliqué, entre guillemets. Et c'est aussi parce que je vois beaucoup d'initiatives comme ça. Par exemple, je ne sais pas si tu connais le tiers-lieu des Beaumont, je suppose
oui.
Et ils proposent par exemple des cours de yoga où c'est prix libre. Il y a quand même écrit tarif conseillé 10 euros.
Voilà. Après, je pense qu'ils sont sûrement subventionnés derrière. Et puis, donner un cours de yoga, ça coûte très peu en production, vu qu'on leur donne le lieu gratuitement. Tu vois, tu as des pièces en production qui peuvent coûter 1000 euros, 10 000 euros. Donc, tu ne vas pas la vendre 10 euros, quoi, c'est sûr.
Oui, c'est sûr. Mais c'était pour savoir un petit peu ton avis là-dessus. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est très, très...
fréquent en ce moment. Ouais.
Mais ça dépend beaucoup, dans quel domaine. Et puis, voilà.
Je pense que chaque
artiste aussi, par exemple, tu as des artistes qui ont des galeries. Ils ne peuvent absolument pas faire ça, parce que tu ne peux pas vendre une pièce 5000 euros dans une galerie et la vendre dans ton atelier à prix libre à 100 euros. C'est juste impossible. Donc ça dépend qui, quoi. Mais bon, l'idée est bonne, parce que j'aime bien le côté démocratique et abordable. Ou de s'adapter aux personnes.
Là, j'ai sous mon nez une brochure, le 1% artistique et la commande publique, donc par le Centre national des arts plastiques. Et alors, je me demandais, Cécile Pitois, est-ce que c'est un fonds dont vous avez pu bénéficier sur certaines de vos œuvres dans l'espace public ?
Alors, commande publique, oui, et puis 1% artistique, seulement une fois. Aussi, c'est que mon travail est axé dans le domaine de l'espace public. Mais je n'ai pas envie de répondre que à des appels d'offres avec des cadres où on nous dit où mettre l'œuvre et parfois un peu la thématique. Donc moi, je ne suis pas ni architecte ou ni designer. Donc pour moi, c'est important en tant qu'artiste d'être force de proposition. Donc justement, j'initie beaucoup de projets dans l'espace public et c'est moi qui vais construire le cahier des charges, moi qui vais trouver l'argent pour faire l'étude, comme je viens de faire le long de la Vienne avec un journaliste où on a conjugué un regard plus scientifique, journalistique et artistique avec des propositions d'œuvres qui verront peut-être ou pas le jour dans l'espace public, mais en tout cas, ils vont être conçus en tant que projet, quoi. Voilà.
Il y a un podcast à écouter sur toutes les plateformes, je crois.
Ça s'appelle Carnet-de-Vienne. Donc Carnet de Vienne. Et puis peut-être mettre Cécile Pitois. C'est sur Arte, Spotify et Deezer. Donc ça vous emmène sur 12 podcasts à peu près de 20 minutes où d'une part le journaliste a interviewé plein de spécialistes de la rivière ou de pratiquants de la rivière. Et moi qui ai fait des petits contrepoints.
C'est-à-dire, enfin, c'est juste une dernière question, c'est, il y avait des sourciers ou pas ? Parce que ça m'intéresse, ceux qui trouvent
les
sources.
Alors, non, moi j'aurais été vers ces personnes-là, mais le journaliste n'est pas allé vers ces personnes où il n'a pas eu la chance d'en rencontrer. Hein.
Ah voilà. Mince, dommage.
Dommage.
C'est assez mystique, j'aime bien.
En fait, c'est très technique plus que mystique. Ok, merci.
Bon, bah, merci.
Donc je passe la parole à Xavier.
Eh bien, maintenant nous avons Xavier qui vient de remplacer Cécile.
Bonjour.
Bonjour Xavier. Eh bien, on te voit partout depuis, on se voit partout depuis quelques semaines là. C'est incroyable ça.
On se voit tous les deux partout.
Oui, c'est vrai. Donc Xavier Bertola sur Radio Campus Tours. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je m'appelle Xavier Bertola. J'ai pris comme pseudonyme le nom de Berthaud, et depuis quelques années, je crée des attractions où je fais participer le public. Et parmi ces attractions, il y en a deux qui tournent encore, parce que toutes ne tournent pas. En même temps, en tout cas, il y a la caravane parlante, qui est une caravane de tourisme transformée en studio d'enregistrement mobile, et puis un bureau des réclamations, où je m'installe dans l'espace public et où je fais parler les gens sur un thème ou sur un sujet défini. Voilà. Mais à côté de ça, je suis aussi peintre et je peins des motifs géométriques assez amusants. Enfin, j'espère en tout cas.
Et est-ce que tu as bientôt prévu de refaire un peu le bureau des plaintes ? J'ai oublié comment tu l'as
Le bureau des réclamations.
Oui, le bureau des réclamations.
Oui, je le fais en ce moment dans un contexte particulier qui s'appelle ensemble. La formule m'échappe. C'est tous ensemble pour la culture. Et c'est dans la communauté de communes autour de l'Angers. De tout ce que, donc, de temps en temps, je suis allé à des sorties de cinéma en plein air où j'ai installé le bureau et où j'ai demandé aux gens de me donner leur définition de la culture. Je récupère ces écrits, je les mets en page et ça formera des affiches graphiques à la fin de... à la fin du diagnostic culturel qui est en train de se faire.
Et tout à l'heure, tu m'as conseillé certains livres, dont un livre en particulier qui est Les Arts Incohérents.
Oui.
Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus pour les auditeurs, surtout que c'est en rapport avec ta pratique artistique?
J'ai toujours aimé l'humour, et l'humour dans l'art plastique, c'est pas toujours évident. Et en allant, je crois... à Blois, à la Fondation du Doute, j'avais vu Les Incohérents, qui se situe avant le mouvement Dada. Alors je me disais, qu'est-ce que ça peut être que ça? Et j'avais vu quelques exemples d'œuvres qui faisaient sourire, quoi, qui faisaient rire. Et j'ai vu une autre fois le livre Les Incohérents, et je ne sais plus quel est le sous-titre.
Et le rire dans les arts plastiques.
Et le rire dans les arts plastiques. Je me suis dit, mais bon sang, voilà, je vais m'y retrouver, parce que c'est pas toujours ce que... C'est pas général qu'il y ait le rire dans les arts plastiques. Je dirais même que c'est une marge, et on n'est pas beaucoup à le faire, n'est-ce pas?
Oui, c'est sûr. mais on s'amuse bien quand même. Parce que je repense à la Fondation du Doute, il y a... quand j'ai visité, ça m'a marqué. Il y a une table de ping-pong.
Oui.
Mais alors, c'est pas vraiment une table de ping-pong classique. C'est-à-dire qu'on peut faire du ping-pong avec des poissons en plastique, des casseroles. Je crois qu'il y a un balai, tellement de choses, un livre aussi. Et cette dimension de faire rire et faire sourire, je trouve ça super intéressant.
Elle est vitale dans l'art. Enfin, je le trouve, moi, en tout cas. C'est cette veine que j'ai creusée. Et quand j'ai lu Les Arts Incohérents, à chaque page, à chaque chapitre, je me retrouvais dans les artistes qui étaient présentés, et dans l'idée aussi qui me vient plus générale, qu'ils montaient des manifestations qui ne semblaient pas être des expositions, mais qui étaient des expositions. C'est-à-dire que quand tu sortais, tu te disais « Ah mais ouais, en fait, je viens voir une expo », alors que c'était un bal. Mais derrière le bal, il y avait une kermesse. Derrière la kermesse, bon, il y avait toujours quelque chose comme ça qui se cachait, qui était humoristique, quoi.
Bon, alors, je rejoins la conversation, là. Je me tourne vers vous, chers artistes, là, parce que vous dites « Ah, c'est bien les œuvres d'art qui font sourire et rire ». Et pourtant, Xavier, tu dis « Ah, c'est quand même pas la norme hein, d'être drôle dans l'art, en tout cas dans les arts visuels ». Alors, j'aimerais savoir à votre avis pourquoi, parce que faut se prendre au sérieux, parce que si c'est drôle, c'est populaire et du coup, c'est pas de l'art. Enfin, pourquoi?
Mais tu as fait un peu la réponse à la question. Je pense qu'il y a une certaine droiture ou comment on pourrait une pédanterie aussi à ce que ce soit sérieux, parce que c'est de l'art. On a sacralisé en fait des fois des choses qui à mes yeux ne devraient pas l'être, et il y a plusieurs chapelles aussi, parce que il y a... Tu parles de l'art, mais tu parles de l'art contemporain. Mais si tu parles d'un autre art qui est de l'art populaire et de l'art brut, par exemple, il y en a qui fait sourire hein, et c'est direct. Il peut aussi faire mal, parce que c'est aussi des gens qui souffrent qui font de l'art brut. Mais c'est une autre posture, voilà, qui est définie là et qu'on a sous les yeux. Et quant à l'art populaire, ça fait populo, je ne pense pas quand même. Parce que c'est quand même dur de faire des œuvres d'art qui font rire. C'est pas simple. Bon, c'est comme une œuvre d'art, ça ressemble un peu à une blague. Tant qu'on ne l'a pas mis en tension avec le public, on ne sait pas si ça va faire rire ou pas. Alors, une œuvre d'art qui se dit marrante, moi... J'adhère parce que, comme je te disais, c'est ma veine. Mais il y a des œuvres qui me font pas rire et auxquelles j'adhère aussi, parce qu'elles me touchent, tout simplement parce qu'elles dégagent, quoi. Donc c'est pas tout noir, tout blanc, je sais pas comment te dire, ou si j'ai répondu à ta question.
Oui, mais c'est bien, on aime bien les nuances à Radio Campus. Alors j'en profite là, puisque Louise nous a parlé de cet ouvrage que tu lui as prêté. Est-ce que, au hasard, tu voudrais ouvrir les livres pour nous en lire un petit extrait?
Au hasard. Alors là,
faut que j'y aille là. Picasso, amuseur notoire et secret. Picasso n'était pas avare de facéties. Voilà, comme quoi des fois, il y a des idées reçues qui tombent. Il aimait se déguiser, ne répugnait pas à provoquer, surtout en privé. Sa pièce, Le désir attrapé par la queue, 1941, qu'ont interprété Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Queneau et quelques autres, dans le salon de Leiris en mars 1944, reste à cet égard une belle réussite. Dans ses tableaux, sa verve domine son humour et la gravité l'emporte évidemment quand il affronte un sujet tragique. Le cubisme, d'abord raillé, a été rapidement considéré comme un maillon essentiel du développement de l'art moderne. Durant ces décennies, ce statut excluait qu'il puisse recéler de discrètes facéties. Il aura fallu une petite révolution du regard pour que l'on considère le collage et les papiers collés de Picasso sous cet angle, bien que tous ne soient pas désopilants. Je m'arrête là. Sur la désopilance. Mais si tu ris pas dans le micro, on va pas l'entendre. Il y a des idées qui, tu vois, il y a des idées reçues qui tombent aussi dans ce livre. C'était voilà.
Eh bien, écoute, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Xavier.
Merci à vous de m'avoir invité.
À bientôt.
À bientôt.
C'est sûr, on va se recroiser.
Ouais.
Et voilà, on clôture du coup ces journées de rencontres régionales des arts visuels. On était le vendredi 12 septembre 2025 et il est quasiment 18h30, je crois, ou un peu plus.
C'est l'heure des petits fours.
C'est ça.
Et du coup, à boire pour qui?
Devenir art, rencontre régionale des arts visuels, un podcast en 4 épisodes, réalisé par Mélissa Vicilius et Louise Wallet, retrouvable sur radiocampustour.com.